La croix de sang.
Il n'avait pas conscience du temps écoulé. Le vin de liqueur parfumé de romarin, de rose et de grenade était plus qu'à demi épuisé dans la cruche de cristal. Les braises s'écroulaient dans le foyer. Il n'avait même pas entendu les cris du guet qui s'élevait lointain d'heure en heure dans la nuit. Il ne pouvait s'arrêter de parler. La reine, surtout, qui pour la première fois depuis bien des années, ne craignait pas qu'un espion fût caché derrière la tapisserie pour rapporter le moindre de ses propos. Elle n'aurait pu dire s'il lui était jamais arrivé de se confier aussi librement. Elle avait perdu jusqu'à la mémoire de la liberté. Mais jamais elle ne s'était trouvée devant un homme qui l'eût écoutée avec plus d'intérêt, lui eût répondu avec plus de justesse et dont l'attention fût chargée de plus de générosité. Bien qu'ils eussent devant eux des jours et des jours où il leur serait loisible de s'entretenir, ils ne pouvaient se décider à interrompre leur orgie de confidence. Ils avaient tout à se dire, sur l'état des royaumes, sur le traité de paix, sur les lettres du pape, sur leurs communs ennemis, et Mortimer a raconté sa prison, son évasion, son exil, et la reine a avoué ses tourments et les outrages subis. Isabelle comptait demeurer en France jusqu'à ce qu'Édouard y vînt lui-même pour l'hommage. L'évêque Orleton, avec lequel elle avait eu une entrevue secrète entre Londres et Douvres, le lui conseillait. « Vous ne pouvez point, madame, retourner en Angleterre avant que les Despensers aient été chassés, » dit Mortimer. « Vous ne le pouvez, ni ne le devez. » Leur but était clair, en ces derniers mois, à me si cruellement tourmenter. Ils attendaient que je commisse quelque folle entreprise de révolte, afin de me clore en quelque couvent ou quelque château lointain comme on a fait de votre épouse. « Pauvre amie Jeanne, » dit Mortimer. « Elle a bien fort à pâtir pour moi. » Et il alla mettre une bûche dans le foyer. « Je lui dois d'avoir appris l'homme que vous étiez, » reprit Isabelle. « Souvente nuit, je la faisais dormir à mes côtés, tant je craignais qu'on ne m'assassinât. Et elle me parlait de vous, toujours de vous. Ainsi ai-je su les préparatifs de votre évasion, et j'ai pu y contribuer. Je vous connais mieux que vous ne pensez, Lord Mortimer. » Il y eut un moment comme d'attente de part et d'autre, et un peu de gêne aussi. Mortimer demeurait penché vers l'âtre dont les lueurs éclairaient son menton profondément incisé, ses sourcils épais. Sans cette guerre d'Aquitaine, continua la reine, sans les lettres du pape, sans cette mission auprès de mon frère, je suis certaine qu'il me serait arrivé grand malheur. Je savais, madame, que c'était le seul moyen. Je n'avais guère plaisir, croyez-le, à cette guerre entreprise contre le royaume, si j'ai accepté d'en partager la conduite et d'y faire figure de traître, car se rebeller pour défendre son droit est une chose, mais passer à l'armée adverse en est une autre. Il avait sa campagne d'Aquitaine sur le cœur et voulait s'en bien disculper. C'est que je savais qu'il n'était d'autre façon d'espérer vous délivrer, sinon en affaiblissant le roi Édouard. Et votre venue en France, madame, est aussi mon idée. J'y ai œuvré sans relâche jusqu'à ce que vous soyez là. » La voix de Mortimer était animée d'une vibration grave. Les paupières d'Isabelle se fermèrent à demi. Sa main redressa machinalement l'une des tresses blondes qui encadraient son visage, comme des anses d'amphore. « Quelle est cette blessure à la lèvre que je ne vous connaissais pas ? » demanda-t-elle. Un présent de votre époux, madame, un coup de fléau qui me fut asséné par les gens de son parti lorsqu'ils me renversèrent dans mon armure, à Shrewsbury, où je fus malheureux. Et malheureux, madame, moins pour moi-même, moins de la mort risquée et de la prison endurée que d'avoir échoué à vous porter la tête des Despensers à l'issue d'un combat livré pour vous. Cela n'était pas la vérité totale. La sauvegarde de ses domaines et de ses prérogatives avait pesé au moins aussi lourd dans les décisions militaires du baron des Marches que le service de la reine. Mais en ce moment, il était sincèrement persuadé d'avoir agi pour la défendre. Et Isabelle y croyait aussi. Elle avait tant souhaité pouvoir le croire. Elle avait tant espéré que se dressât un jour un champion de sa cause. Et voilà que ce champion était là, devant elle, avec sa grande main maigre qui avait tenu l'épée et la marque au visage, légère mais indélébile, d'une blessure. Il semblait surgir tout droit dans ses vêtements noirs d'un roman de chevalerie. Vous rappelez-vous, ami Mortimer, vous rappelez-vous le lait du chevalier de Greyland ? Il fronça ses sourcils épais. Greyland, un nom qu'il avait déjà entendu, mais il ne se rappelait pas l'histoire. C'est dans un livre de Marie de France que l'on m'a volé, comme tout le reste, reprit Isabelle. Ce Greyland était chevalier si fort si bellement loyal, et son renom était si grand, que la reine de ce temps s'éprit de lui sans le connaître. Et, l'ayant fait mander, elle lui dit pour première parole, lorsqu'il apparut devant elle, « Ami Graëlante, je n'ai jamais aimé mon époux, mais je vous aime autant qu'on peut aimer et suis à vous. » Elle était étonnée de sa propre audace et que sa mémoire lui eût fourni si à propos les paroles qui traduisaient tout exactement ses sentiments. Pendant plusieurs secondes, le son de sa voix lui parut se prolonger à ses propres oreilles. Elle attendait, anxieuse et troublée, confuse et ardente, la réponse de ce nouveau Graëlant. « Puis-je à présent lui avouer que je l'aime ?» se demandait Roger Mortimer, comme si ce n'avait pas été la seule chose à dire. Mais il est des champs clos où les hommes les plus braves en bataille se montrent singulièrement malhabiles.